Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Il y a un sondage qui est diffusé aujourd'hui. Là. On apprend qu'un homme montréalais sur cinq présenterait une détresse psychologique élevée. Ça se passe en 2021. Avec nous, Janie Houle, qui est psychologue et chercheur et professeur titulaire à l'UQAM. Madame Houle, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Pourquoi d'abord les hommes montréalais, on parlera du reste après, là, mais pourquoi, est-ce qu'ils sont représentatifs ou justement ils sont particulièrement différents des autres?
Ben en fait, dans le fond, le sondage a été mené en janvier. Okay? Donc, il faut se ramener en janvier. C'était après 10 mois de pandémie. Ben, ce qu'on a constaté, c'est quand même que la pandémie a frappé fort à Montréal. Il y a eu plus de cas, il y a eu plus de décès. On sait qu'à Montréal aussi, c'est là où on retrouve le taux de pauvreté le plus important et que la pandémie a particulièrement affecté les populations, les personnes qui sont à faible revenu, qui sont défavorisées également. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi, dans le fond, la situation était pire, en tout cas en janvier, à Montréal que dans le reste de la province.
OK. Ben, question quiz pour faire le suivi là-dessus, Mme Houle. Qu'est-ce qu'on doit entendre par détresse psychologique? Qu'est-ce que ça veut dire?
OK. Donc, la détresse psychologique, c'est un malaise qui est comme non spécifique. C'est-à-dire que c'est pas un trouble mental comme tel. On l'évalue avec un instrument de mesure qui est utilisé partout dans le monde, qui comprend 6 questions, dans le fond, qui demande en fond, au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes senti? Puis là, il y a différents états. Donc, nerveux, déprimé, désespéré, bon à rien, fatigué au point où tout est un effort. Donc, vous voyez un peu le style. Ouais. Et donc, avec ça, on calcule un score et à partir du score de 13 et plus, cela indique une détresse psychologique élevée. Donc, ça montre que la personne ne va pas bien. Là, après, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a développé un trouble anxieux ou un trouble dépressif majeur, mais ça indique vraiment que la personne ne va pas bien et qu'idéalement, ben, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui lui porte secours à cette personne-là.
Ouais, en même temps, quand on parle de détresse, là, est-ce que ça peut mener, est-ce que le sondage va plus loin? Est-ce qu'on peut comprendre les suivis de cette détresse-là, les comportements qui s'en suivent?
Ben en fait, pas vraiment. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les personnes qui vivaient de la détresse psychologique élevée étaient davantage portées à nous rapporter, à avoir aussi des difficultés dans leur relation conjugale, avoir des difficultés dans leur relation avec les enfants. Ils sont aussi, paradoxalement, bien qu'ils soient les plus en détresse, sont moins enclins à vouloir consulter. Il y a seulement 20% d'entre eux, 19% pour être exact, qui ont consulté, OK?
Ouais.
Et il y a 20% qui ont dit, j'aurais eu besoin de consulter, mais je vais reporter après la pandémie. Donc ça, c'est vraiment des phénomènes. Puis on les a questionnés justement sur leur perception des consultations à distance. Parce que ça nous inquiétait. Parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'interventions psychosociales qui sont passées d'un mode présentiel à un mode à distance. On se dit, non, les hommes, est-ce qu'ils vont adhérer à ça? Bien, ce qu'on constate, c'est que les hommes ont une nette préférence pour la consultation en présence. Et qu'en plus, plusieurs d'entre eux, donc 47%, considèrent que les interventions à distance sont moins efficaces que les interventions en présence.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Des freins à la consultation.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
On ne sait pas pourquoi. Dans le fond, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on leur a demandé leur intention de consulter pour différentes modalités et que plus on s'éloigne du contact humain, moins ils ont l'intention de consulter.
Ah ouais.
C'est les limites d'un sondage. On n'a pas pu leur parler directement pour avoir leurs impressions.
OK. On apprend aussi, Mme Houle, que seulement 26% de ces hommes estiment bien connaître les ressources disponibles pour leur venir en aide. Est-ce qu'il y a là un message au gouvernement ou en tout cas aux services gouvernementaux?
Oui, absolument, tout à fait. Donc, ils ne connaissent pas bien les ressources. Donc là, il y a une nouveauté à Montréal, puis un peu partout dans le Québec, là, notamment à Montréal, sur le site Internet du portail Santé Montréal, on a mis la liste de toutes les ressources disponibles pour en santé et bien-être des hommes à Montréal. Donc ça, on le fait. Je sais que de d'autres régions l'ont fait également. Mais on a vraiment discuté à communiquer nos interventions, le fait que les ressources existent. Mais il y a aussi un phénomène particulièrement inquiétant, à mon sens, c'est la fracture numérique. Et je pense que là, la pandémie a vraiment montré à quel point cette fracture numérique-là est très problématique.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bon, la fracture numérique, c'est le fait qu'une proportion de la population, qui est quand même assez importante, qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès à un ordinateur ou à une tablette non plus pour faire des recherches. Et donc, tous ces gens-là, tout ce qui se passe là sur Internet, ils n'ont pas accès à ces informations-là. Et donc, ils n'ont pas accès non plus à des consultations à distance comme de télémédecine, etc. Donc, ça, c'est un problème parce que c'est comme si on prend pour acquis que tout le monde est branché. C'est pas le cas. Ouais. Et les populations qui en ont le plus besoin, ben, ils n'ont pas accès à ces ressources-là. Donc, pour moi, ça, c'est un problème très important.
C'est bon, ça. On lit aussi dans le communiqué là, que les hommes dont la langue maternelle est l'anglais présentent également un taux de détresse plus élevé que les hommes dont la langue maternelle est le français. Est-ce qu'on sait, encore une fois, est-ce qu'on sait pourquoi?
Ben ça, c'est un résultat qu'on observe année après année dans tous les sondages qu'on fait. Il y a un écart. Oui, donc ça, je suis pas capable de vous l'expliquer. On pense peut-être que c'est parce que, dans le fond, les anglophones au Québec font partie, c'est un groupe minoritaire. Et donc, quand on fait partie d'un groupe minoritaire, il y a toutes sortes d'enjeux autour de ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a des recherches de plus qui devraient être réalisées pour mieux comprendre cette situation-là, parce que moi, ça me préoccupe.
Bon, est-ce qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer de ce sondage? C'est sûr, Mme Hull, aujourd'hui, là, tout le monde va vous demander, est-ce qu'il y a un lien entre la détresse psychologique que vous nous présentez de la part des hommes et les féminicides qu'on a connus, la violence conjugale dont on parle?
Ben, la violence conjugale, là, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent contribuer à cette violence-là. La détresse psychologique peut être un parmi tous les autres éléments, c'est ce que je serais capable de dire à ce stade-ci. Là.
OK. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce sondage et l'appliquer concrètement là, pour aider les hommes?
Ben, concrètement, dans le fond, moi, je pense que mes principaux interlocuteurs, là, en fait, c'est plus le gouvernement. Parce que, dans le fond, là, la détresse psychologique, elle est là, mais... Les services, là, c'est important d'offrir des services, mais quand même, on arrive tard dans le processus. Là. C'est comme si on met comme un pansement sur un bobo. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir le bobo, travailler en amont? Donc, moi, je pense que c'est nécessaire d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de défavorisation socio-économique. Donc, quand je parle de conditions de vie, je parle du revenu, je parle du logement, je parle des conditions de travail. Je sais pas, mais je sais pas c'est quoi vos conditions de vie, mais j'imagine que vous vivez dans une belle demeure et tout ça, un peu comme moi, on a ce privilège-là, cette chance-là. Mais être confiné là dans un 3,5, là, quand on est une famille de 6, là, c'est pas la même chose. Donc, je pense que vraiment, ça, c'est un élément qui est très important. Donc, j'en appelle plus au gouvernement qu'à la population. Aux hommes qui souffrent actuellement, ben je leur dis, il existe des ressources. Alors, je vous invite vraiment à les consulter. Puis des fois, dans le fond, c'est vrai que vous pouvez peut-être penser que de parler à un intervenant, ça vous aidera pas, mais quand même, juste de se faire sentir écouté, compris par l'intervenant, peut-être qu'il va vous donner des suggestions, des idées à laquelle vous n'avez pas pensé, ça peut vous aider. Donc, je vous encourage. Il y a le 811, Info Sociale 24/7, hein. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le CLSC où vous pouvez vous présenter sans rendez-vous pour avoir de l'aide psychosociale. Donc, je vous encourage vraiment à consulter.
Comme psychologue, là, je veux vous entendre sur une chose, Mme Hull. Moi, souvent, je dis, là, on reconnaît le problème. T'sais, on parle de détresse psychologique, puis vraiment, le but, c'est pas de minimiser ou banaliser là, cette détresse-là. En même temps, est-ce qu'on doit pas aussi faire appel à la résilience des gens? Tu sais, on a passé à travers la pandémie, puis là, je trouvais souvent qu'on se plaignait, comme vous venez de le dire, là, on se plaignait. Tu sais, on vit dans une maison pas pire, puis là, tu dis, bon, mais il y a des contraintes, puis on va vivre avec. Le concept de la résilience, là, surtout, tu sais, on n'est pas en état de guerre, on se fait pas bombarder sur la tête. Est-ce qu'on peut faire appel à un peu plus de colonne vertébrale, un peu plus de, tu sais, reprends-toi, tire-toi, comme mes parents, là, qui avaient de la vie tough, mais qui se relevait par leur lacet puis qui continuait à vivre au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui manque dans le message aussi, dans le message collectif?
Ben, c'est un bon point. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes et de collectivités aussi qui ont été très résilientes dans la pandémie. Puis c'est vrai qu'on ne met pas ça suffisamment en valeur. On a tendance, je ne veux pas vous reprocher à vos collègues et à vous là, de mettre souvent l'accent sur les problèmes, mais dans les faits, c'est ça. Fait que oui, effectivement, il y a de la résilience qui s'est produite pendant la pandémie. C'est important de la mettre en lumière. Puis je vous dirais, moi, je fais de la recherche avec des personnes qui vivent en logement social dans les HLM. Puis j'ai constaté constater tellement à quel point ces personnes-là, qui ont quand même beaucoup de facteurs de risque,
ouais,
sont résilients, sont capables de s'en sortir, de rester solidaires, de s'entraider. C'est vraiment quand même remarquable. Donc ouais, oui, cette résilience-là, elle existe, mais je pense que quand même, on aura avantage comme société à mettre davantage l'accent justement sur des programmes, des interventions qui visent à construire la santé. On appelle ça des approches salutogéniques, donc plutôt que pathogéniques. On essaie de construire la santé plutôt que de s'intéresser juste à la maladie ou au pathos.
Ouais. Mmh, ouais. Aussi, en conclusion, là, vous parlez d'un coffre à outils pour Rome qui sera lancé oui, ce midi. De quoi on parle exactement?
OK. Donc, en 2017, on a eu notre plan d'action en santé bien-être des hommes pour le Québec en entier. Puis, on a commencé à essayer d'implanter ça un peu partout. Puis, les intervenants se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas suffisamment équipés. Donc, comment on adapte les pratiques, etc. Donc, moi, j'ai créé comme un comité de croisement des savoirs sur lequel il y avait des scientifiques, il y avait des professionnels, puis il y avait aussi des hommes utilisateurs de services. Et ensemble, on a travaillé à développer 6 outils pour aider à adapter les services. Donc, on est allé un outil plus général sur les bonnes pratiques, un outil sur comment réagir face à l'agressivité. Mmh. Ça, on n'en parle pas souvent, c'est un peu tabou, mais mmh, les hommes, des fois, quand ils arrivent au service, sont tabous. Ils ont attendu, et là, ils sont en état de crise. Et parfois, la souffrance chez les hommes, ça peut se traduire par de la colère.
Ouais.
La colère, c'est une émotion qui est légitime, puis il faut être capable de l'écouter. Et donc, il y a des manières de réagir face à la colère, face à l'agressivité, donc on en a fait un outil. On a un outil pour les hommes issus de l'immigration, comment adapter les services pour eux. Un sur les hommes de la diversité sexuelle.
Mmh.
Et finalement, on a un outil qui s'adresse aux hommes comme tel, qui s'appelle « Comment se relever d'un coup dur » et un outil qui s'adresse aux proches sur comment aider un homme proche de nous qui vit bon, des moments difficiles.
Et où est-ce qu'on peut s'informer pour ça?
Donc, ça va être sur le site du Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Donc, ça va être disponible tout de suite après le webinaire. On donne un webinaire à 13h30. Là, tous les outils vont être disponibles pour tout le monde.
Bon, ben c'est bon. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir que là, on parle des victimes, là, mais on parle aussi des hommes, puis on veut leur donner des outils pour les responsabiliser et se prendre en main. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Madame Hull, psychologue et prof titulaire à l'UQAM, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.